Portrait d'histoire sur Radio La Côte.
Portrait d'histoire.
Radio La Côte. Portrait d'histoire.
Portrait d'histoire sur Radio La Côte.
Bonjour, aujourd'hui nous partons pour le petit village de La Montellerie à la rencontre d'un artiste, Louis Servin. Cet artiste aux multiples cordes à son arc nous emmène dans son univers, alors attachez-vous, c'est parti. Servin, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation pour l'émission Portrait d'Histoire. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler un petit peu de votre vie, de votre métier en tant qu'artiste. Vous êtes artiste, donc. Si je me trompe pas, vous êtes originaire de l'Hérault, c'est bien ça?
Je suis Rolleté, oui.
Et Rolleté.
Je suis né à Saint-Félix-de-l'Odeste, à côté de Clermont-l'Hérault. Et j'ai fait mes études secondaires à Pézenas, au lycée de Pézenas, dans les années 50. Et puis j'ai grandi. Ma maman avait fondé le centre d'apprentissage de Saint-Pons-de-Thomières, qui est aujourd'hui devenu lycée mixte.
Alors Servin, c'est votre nom d'artiste?
J'ai été élevé par ma mère, mes parents étaient divorcés. Donc j'ai été élevé par ma mère et elle m'a fait la réflexion, elle m'a dit si j'avais su ça, d'avoir un garçon, je ne me serais pas marié. Et la première fois que j'ai signé Servin et je signe du nom de maman. Voilà.
Depuis le départ, quoi.
Oui, mais c'est Picasso ne s'appelait pas Picasso, il s'appelait Pablo Ruiz. Et il avait choisi le nom de sa mère dans le journalisme et papier. Hein. Le pseudonyme, généralement celui de la mère, etc. Bon, c'est classique. Mais je ne renie pas du tout ma branche paternelle.
Alors, on est ensemble ici aujourd'hui à La Montellerie, donc dans le Tarn. Vous êtes arrivé dans le Tarn comment? C'était un choix? Ou pas?
C'est un piège que je me suis tendu à moi-même.
Bon,
j'avais fait un parcours sans faute à Paris. J'étais devenu une vedette de l'art. Alors, il faut expliquer. Il y a l'art officiel qui dépend du ministère, des institutions. Et puis, il y a tout un courant très, très actif qui est le courant alternatif, on l'appelle comme on veut, qui sont des artistes non officiels. Et moi, j'ai toujours été, bon, comme je ne supporte pas la normalité, disons, surtout artistique, j'étais bon dans ce courant-là et je suis devenu une vedette du courant alternatif qui est important. Et maintenant, je vois des collègues que j'ai connus autrefois qui étaient dans le courant alternatif, ils sont des artistes importants. Et j'avais fait un parcours sans faute. Là, j'avais le choix et je voulais donner une orientation internationale à mon parcours. Et j'avais le choix entre la Belgique, où ça démarrait très très fort, la Belgique. C'est le pays au monde où il y a le plus de collectionneurs de tableaux au mètre carré. Donc je vais aller là-bas et tous les collègues qui allaient là-bas, ça marchait très bien. Mais moi, j'ai entendu parler patois à la radio et j'ai eu une nostalgie. Et je voulais partir sur l'Espagne, sur Madrid, parce que bon, Valencia, c'est où j'avais passé mes vacances, et je voulais reparler espagnol parce que j'adore l'Espagne et l'espagnol, et je voulais partir sur une carrière madrilène. Et au passage, comme j'avais entendu parler patois, j'avais une nostalgie du pays, tu vas reparler patois. Et je suis retourné ici pour m'installer. Je voulais pas m'installer sur Saint-Pons. Et je voulais quand même pas être trop loin de Saint-Pons, le temps de... Je pensais qu'on restait que 2 ans ici. Je suis la génération de rural. Hein. Je suis né dans un village, j'ai grandi dans un village. C'est-à-dire, c'est un pays, une époque où on passait du patois au français sans problème. Et j'avais des amis qui étaient de la génération de mes parents, qui parlaient un très très beau patois. Et quand je suis revenu là-bas, dont j'admirais la langue, j'ai dit, tu vas passer quand même deux ans ici. Je voulais m'installer dans le pays de mon arrière-grand-mère, parce que j'ai été élevé par ma grand-mère qui était sa fille, et j'avais toujours entendu parler de ce pays-là. Donc j'ai voulu m'installer ici, je voulais du soulier, puis j'ai pas trouvé un soulier, et j'ai trouvé ici. Et c'est le piège. Parce que il y a mon côté d'abord artiste, en plus artiste contemporain, d'art expérimental. C'est pas du tout les petites fleurs sur des ardoises. Bon, et puis parisien. Alors, quand je suis à Paris, on me dit que j'ai l'accent du Midi, et comme je suis ici, on me dit que j'ai
l'accent de Paris. D'accord.
Mais pour n'importe la patte, c'est vrai. J'ai été coincé là pour X raisons, et je suis là, et puis ben, il fallait faire avec, quoi.
Ako ezino kambo, ako ezu pumpil, ako ezino keiso, ako ezu tsenul, ako ezu klaviat, e akizenupe, arosian eskipat perdan salut. Yo parli occitan, ako ez papulit, parlar en occitan, ako ez pa aidit. Lolu, lolu, lolo, lolo, lolo. Ako ez un espatlo, ako ez un bradretz, ako ez un opaumo, ako ez un puñet, ako un kefalori, e aki Lise et Loupune, à Rossienne, Esquipa, Pimbalia, une tucette. Yo parli occitan, à quoi est-ce pas poulit, par la reine occitan, à quoi est-ce pas haïsit. Lololum, lololum, lololololum, lololum, lololum.
Et est-ce que ce village, est-ce que le Tarn vous inspire au niveau de vos œuvres ?
Le problème est totalement différent parce que, non, je dirais, c'est quand même ce coin ici est très beau. Il faut le dire, l'automne est magnifique, l'hiver avec le givre, la neige, c'est vraiment un pays très magnifique. Puis les alternances de saisons sont très contrastées. Mais je ne suis pas tourné ni vers le paysage ni vers le portrait, c'est deux choses. Je suis plutôt, j'ai toujours été tourné, bon, j'ai une base traditionnelle et classique, bon, mais j'ai toujours été tourné vers l'art expérimental, enfin vers les choses novatrices, parce que... Il y a toujours eu des tableaux à la maison. Enfin, il y avait des tableaux à la maison. Puis, on recevait des revues. Il y avait des bouquins d'art. Par contre, j'ai aménagé le jardin en fonction de présentation de sculptures. Ça a été un aménagement complet. Je pensais pas avoir la main verte. Je l'ai pas du tout, mais même pas ça. J'ai utilisé le terrain. Mmh. Mais ça, c'est dans la démarche expérimentale.
Mmh. Alors, on va revenir un petit peu aux origines, justement. Comment êtes-vous devenu artiste ? Il y a un terrain familial, si je me trompe pas, quand même.
Maman était portée sur tous les arts. Bon, elle était violoniste, c'est pour ça que vous verrez beaucoup de violons dessinés ici. Mm-hmm. La première chose que j'ai dessinée, c'est le violon de maman. Mm-hmm. J'ai retrouvé le dessin, d'ailleurs. Mm-hmm. Très clair. Enfin, quand j'ai dessiné, c'est dessiné de façon classique, très, très académique, même. Et elle, l'amateur a s'est poussé parce qu'elle déchiffrait, elle transposait à vue, bon, etc. Et puis, il y avait des tableaux. Alors là, l'art était partout. Et elle m'a trimballé dans les musées, dans les galeries, quand j'étais tout gamin, et puis je ne me suis pas aperçu. C'est vraiment, j'étais porté sur l'art, et en plus sur l'art novateur, si vous voulez, parce que même à cette époque-là, où j'étais pas branché dans des courants très, très... très avant-gardiste comme je l'ai été par la suite. Et puis il y a eu le déclic, bon, mais je pense que c'est tout de toujours. Et puis un jour, maman a fait une chose qui se ferait pas aujourd'hui parce que c'est impossible avec l'administration telle qu'elle est venue. Elle a organisé avec ses élèves un voyage, une colonie de vacances itinérante dans deux autobus, avec rempli de filles, sur toute l'Italie du Nord, et on dormait sous la tente. Et ce serait pas possible à faire aujourd'hui. Alors, surtout en Italie, avec les jeunes, avec leurs Vespa qui faisaient tête à queue pour voir les filles. Et on a visité, et alors, là, il y a eu Florence. Florence, alors, j'ai l'habitude de dire que quand on est préadolescent et qu'on arrive à Florence, on a deux choix. On devient artiste ou on reste con toute sa vie, alors je préfère être
artiste. D'accord.
L'un n'excluant pas l'autre, je vous dis. Et puis après, bon, il y a les grandes révélations, enfin, je veux dire, la Vénus de Botticelli, le David, puis alors après, Rome et la Pietà de Michel-Ange, c'est des œuvres qui m'ont le plus ému de voir la Pietà de la Vénus, quand on est préadolescent, cette femme qui est tout à fait irréelle, c'est la quintessence de l'amour spirituel concrétisé par le nu de la Vénus. Et puis la Pietà de Michel-Ange avec cette mère qui est belle, jeune encore, et qui a cette détresse avec son fils qui a été torturé sur les genoux. C'est des deux œuvres qui m'ont vraiment le plus impressionné. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça a été bouclé parce que aux Uffizi, à la Galerie des Offices en Italie, il y a un jeune guide qui est arrivé. Il y avait tout de suite ces filles là, qui s'est approché de maman et qui lui a dit, écoutez, j'ai un groupe d'anglais et si vous voulez, je vous fais un prix pour visiter. Et là, il nous a fait trois tableaux. Après, il a dit, après, ce serait trop. Et sur les trois tableaux, il nous a fait vraiment un gars qui était d'abord bon pédagogue et puis qui maîtrisait bien l'art. Et là, j'ai compris que, sur la Vénus, évidemment, de Botticelli, j'ai compris, il nous a expliqué l'arabesque, j'ai compris que l'art, une œuvre d'art, c'était pas seulement, ça se construisait, là par l'arabesque, plus tard avec la géométrie, j'ai appris plus tard qu'on pouvait construire sur des données géométriques, enfin, qu'il fallait construire le tableau à partir de données géométriques, et après il y a la couleur, etc., etc. Mais ça a été la première fois où j'ai réalisé que l'art, c'était pas une inspiration comme ça qui vous tombait sur la tête. Il y avait évidemment le génie de l'artiste, mais il y avait la sensibilité de l'artiste, mais que ça se faisait pas n'importe comment.
Donc il y a des codes, quoi.
Il y a, oui.
Certains codes.
Oui, un tableau, ça a quatre côtés. Prenons un tableau. Pour faire les choses simplement, il faut partir du tableau. Ça a quatre côtés, et c'est une surface délimitée. Et l'harmonie de cette surface, l'œil, s'il y a l'harmonie de la surface, l'œil le voit tout de suite. Il y a des règles de géométrie, de règles de couleur, il y a des règles de volume, etc. Et tout ça, bon, ça s'apprend.
Alors justement, pour vous, il vous faut connaître les bases avant de se lancer dans l'abstrait. Alors pourquoi ? Vous nous le disiez un petit peu, là.
Alors là, voilà,
les bases.
Je sais pas. J'avais un ami qui était antiquaire. Il était passionné et il avait fait des études d'art médiéval, roman et gothique. Après, à la Renaissance, pour lui, c'était la décadence. C'était la décadence, c'était le retour à l'antique, etc. Donc, il acceptait d'aller jusque Louis XIII, pas plus. Et il avait comme client les deux jeunes, là, enfin, les deux gars qui font les deux jumeaux russes qui font des émissions sur...
Igor et Grishka.
Voilà, je ne connais pas les noms, je ne parle pas de la
télé.
Elle est comment, vous dites ?
Bogdanov.
Et Bogdanov, c'est ça. Donc, et il me dit non, eux, ils disent que plus on veut se projeter dans le futur, plus il faut s'ancrer dans le passé. Et je suis complètement de son avis, si on a une bonne maîtrise de l'art, aussi bien dans la mer, etc., bon, pas comme ça, mais dans sa culture, moi, je... Bon, j'ai jamais voulu enseigner. Hein. Mais quand des jeunes viennent me voir, me disent qu'est-ce que je veux. Je dis, écoute, il y a que deux choses. Dessine, 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 dessine. C'est la base de tout. Que tu veuilles faire de la sculpture, de la peinture, de la gravure ou de l'architecture, la base de tout, c'est le dessin. Faut que tu aies même plus à y penser qu'elle se débrouille toute seule. Et va voir les musées. Va dans les musées, va voir les anciens, va voir les anciens, va voir les anciens. Ici, à Midi-Pyrénées, on a quand même la chance d'avoir le grand maître classique du 19e siècle, c'est-à-dire Ingres à Montauban, le maître absolu du classicisme du 19e siècle. Et on a Albi, on a Henri de Toulouse-Lautrec. Moi, je suis allé, j'ai beaucoup appris. Et j'apprends encore, je veux dire, bon, malgré ce, je me projette dans des choses de plus en plus... contemporaine, difficile d'accès, intello, tout ce que vous voulez. La base technique, si vous voulez, technique, théorique, tout ce que vous voulez, il faut la maîtriser, mais après, vous savez ou non faire ressortir votre sensibilité. Ça, c'est... Prenez un bout de marbre, vous prenez une massette et un ciseau, hein. Vous tapez dedans, puis vous le bouchardez, tout ça. Et puis vous prenez une photo et vous allez au Louvre, vous allez comparer ça avec les esclaves de Michel-Ange et vous verrez ce que ça veut dire de la sensibilité. Parce que c'était un hypersensible.
Comment définiriez-vous votre art ?
Alors, ce qui m'étonne, il y a deux choses qui m'ont étonné. Là, j'ai exposé à Béziers avec des jeunes. Et il m'a fait deux réflexions qui m'ont interpellé. Il m'a dit, on sent le cubisme chez toi. Et c'est vrai, j'ai beaucoup étudié le cubisme et que j'étais passionné de cubisme et que c'est des maîtres sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi et qui m'ont beaucoup apporté. Ça m'a impressionné. Et puis, il m'a dit, mais tu sais, tu découpes des tubes, tu fais des machins. Et on sent toujours que c'est toi. On sent toujours, c'est un très beau compliment, mais c'est pas le seul qui me l'a dit. Hein. Quoi que je fasse, même si quand j'ai la période où j'ai fait de la poésie concrète, où je cassais des chaises et des portes à coups de marteau, on sent quand même que c'est toi. Il hein. y a quelque chose, voilà. Alors comment définir mon art que je cherche moi depuis le début, je pense, c'est me poser des problèmes difficiles et les résoudre. Et à partir d'un certain moment, on se pose un problème difficile, on rame, on a des difficultés avec ça, puis petit à petit, on arrive à trouver les solutions, et arrive un moment où on maîtrise tellement que ça devient une facilité, quoi. Et à partir de ce moment-là, je cherche autre chose parce que j'ai pas envie d'être l'artiste répétitif. Vous savez, faire fortune à ce métier, enfin, sur le plan financier, si vous voulez, vous faites des paysages, vous faites des portraits, vous faites toujours le même menu, ou tous les jours le moins cher, ça devient une...
C'est la routine.
C'est la routine, et puis pour vous et pour l'amateur qui achète parce que ça ressemble à ce tableau qu'il a déjà vu de lui. Quoi. Mais moi, au bout d'un moment, quand je maîtrise un problème, je passe à autre chose.
Donc il y a la peinture, il y a le dessin, il y a la sculpture. Vous êtes un touche-à-tout.
Michel-Ange aussi, je vous signale. Hein. Je sais pas, non, je pense que c'est une totalité. C'est une... Je sais pas. Pas touche-à-tout, non. Si vous allez sur mon site, je pense avoir dit que mon premier maître, il avait senti que j'avais... chez moi, il y a le sens du volume. J'ai toujours eu le sens du volume. Et bon, tout naturellement, un moment est venu à sculpture. Et il y a aussi un aspect que j'ai pas... on le voit dans mes assemblages de granit qu'il y a dans mon jardin. Il y a un aspect que j'ai pas approfondi, qui est ma formation de dessinateur projeteur bâtiment, c'est-à-dire l'architecture. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'architecture. Notamment l'architecture contemporaine est intéressante, mais pas seulement. Et je suis un passionné de charpente. La charpente est un domaine d'intelligence extraordinaire. Pour moi, quand vous voyez des approches vraiment intéressantes de charpente, puis il y a aussi... Alors là, vous avez aussi la charpente contemporaine, parce que la charpente est traditionnelle, puis elle a évolué en bois, etc. Elle a évolué... Elle peut être très complexe avec... par exemple, les charpentes de dômes, de choses comme ça. Après ça, on a fait la charpente métallique. Quoi. Et puis, la grande approche que moi j'adore, que l'on doit à un compagnon du Tour de France français, c'est le lamé décollé. Lamé décollé, c'est une découverte extraordinaire. Et une belle portée comme ça, avec un beau dessin, une grande portée en jamais décollé, c'est extrêmement beau. Mais quand vous voyez une charpente, parlons de charpente en bois, très complexe, vraiment avec les reports de force, etc., etc. C'est le domaine de l'intelligence. Voilà. Donc c'est une approche que j'ai pas, bon, la vie a fait que j'ai pas pu maîtriser. Dans les années 60, en tant que dessinateur projeteur, c'était la meilleure formation de bâtiment qu'on pouvait avoir en tant que dessinateur projeteur. Si je l'ai fait, c'est que je voulais savoir comment ça se construit, comment ça fonctionnait. Bon, c'était dans les années 60, les techniques ont évolué. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, parce que je me suis dit, si un jour tu dois faire une œuvre intégrée dans un monument, que ce soit une peinture, une sculpture, il faut savoir comment ça fonctionne. Mm-hmm. Il y a un domaine que je peux pas, parce que je suis trop petit ici, et que j'ai pas les moyens, j'aimerais bien m'acheter une presse, parce que j'aimerais me remettre à la gravure. Gravure de bois de fil. Là, j'aimerais bien me remettre à la gravure, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, que j'ai abordé jeune et puis que j'ai pu aborder depuis, que je n'ai pas pu aborder depuis. Mais pour moi, tout ça, c'est un ensemble, y compris mon écriture qui fait beaucoup de remous, mais enfin, ça, c'est un autre problème.
Alors, en tant qu'artiste, comment travaillez-vous, justement? Est-ce que vous avez, tout d'abord, un mouvement artistique bien précis?
Non. Bon, quand je suis rentré de l'armée, j'ai perdu ma mère, etc., j'ai fait la route. Et j'étais à Paris souvent, bon, puis je tombe, etc. Et c'était la grande époque d'abstrait français, hein, après les abstraits américains, etc. Il y avait aussi les abstraits américains, il y avait une galerie qui était très intéressante, qui s'appelait la Galerie de Californie. Et il y avait beaucoup d'abstraits, et j'ai été très porté vers l'abstrait. Quand j'ai été à Colmar, d'ailleurs, quand j'ai fait mes études à Colmar, j'étais tombé sur un Parisien qui fait son armée là-bas, qui était peintre abstrait, et il y avait les grandes bagarres entre abstrait géométrique et abstrait lyrique. Moi, j'étais géométrique, lui, était lyrique, on s'engueulait, mais enfin. Je me suis lancé là-dedans. Et puis, quand je suis redescendu dans l'Hérault, quand j'ai pu m'installer, j'ai travaillé. Maître Jacques Poincier, qui restaurait le théâtre de Béziers, je savais que c'était un grand nom de la restauration de tableaux. Et il m'a pris pour la restauration du tableau, du théâtre de Béziers. C'est-à-dire que j'ai donné la collection de maman au musée de Béziers. Et j'étais ami avec le conservateur du musée de Béziers. Et nous avons, il m'a beaucoup appris aussi. Hein. C'est des gens qui, j'étais jeune et puis j'étais avide de savoir. Il m'a beaucoup appris. Et j'ai fait la route. Et comme j'avais donné ces tableaux-là, de temps en temps, je retournais à Béziers, puisque c'est un des foyers de la famille. Et là, Jacques Lugan, qui était conservateur du musée de Béziers, m'a poussé vers le figuratif. Mais le figuratif, très influencé par tout ce que j'avais vu à Paris, quoi. Donc, ma période abstraite s'est arrêtée là. J'ai plus rien d'abstrait de cette période-là. J'ai tout vendu à Nancy, la dernière expo que j'ai faite à Nancy. Et je me suis tourné vers la recherche de volume, beaucoup de recherche de volume sur les nus, beaucoup de nus. J'ai travaillé comme ça jusqu'à la fin des années 70, où je me suis mis à casser des portes et des chaises à coups de marteau. Et je savais que c'était ça qu'il fallait faire, je ne comprenais pas. Parce que je m'étais décalé par rapport à l'aventure contemporaine, de l'art contemporain. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais c'est beaucoup plus intéressant ce que tu fais là. J'ai dit, je l'ai cassé, puis je l'ai restructuré, je l'ai mis en état, en situation, selon des données géométriques, des données colorées, etc., etc. Et c'est là sont arrivées les radios libres, et à ce moment-là, j'ai profité de cet essor de radio libre pour devenir animateur de radio libre, inviter des tas d'artistes dans des courants, parce que les courants, si vous voulez, officiels, on les connaît. Mais tous ces artistes qui font des recherches très intéressantes dans des courants qui ne sont pas officiels, moi je voulais savoir pourquoi je cassais les portes et chaises à coups de marteau. Et petit à petit, je me suis intégré dans le monde libertaire. Les contacts sont faits, mais enfin, vous savez, c'est un milieu, le milieu de l'expérimentation, si vous voulez, c'est un milieu étroit parce qu'il y a une interdisciplinarité, on passe facilement. Bon, moi j'ai rencontré à cette époque-là des musiciens qui faisaient de la musique improvisée, etc., etc. Bon, des gens qui sont importants dans leur métier, dans leur domaine. Et puis je tombais sur les poètes sonores. Tout le courant, poésie sonore, poésie concrète, poésie expérimentale. Et là, ce que je faisais en tant qu'art plastique, ça collait bien. Il y a aussi un courant, si vous voulez, on peut pas dissocier ça du courant conceptuel. Le conceptuel, c'est l'art du concept. Alors, pour faire simple, le concept, c'est une idée. Hein. Et c'est l'idée qui prime sur la création. Et tout ça, c'est lié, si vous voulez. Et je me suis retrouvé dans ce cours-là. Donc, j'ai tourné vers la poésie expérimentale aussi, avec des performances poétiques, etc. Et puis, quand je suis arrivé, je me suis installé ici. Et au bout de deux ans, je me suis mis au dessin. Les dessins sont venus tout d'un coup. Et j'ai dessiné des violons. Parce que c'est un thème récurrent chez moi. J'ai fait des violons que j'ai déformés dans le dessin. Je l'ai déformé dans le dessin. Et en même temps, et puis j'ai déchiré, j'ai recollé, j'en faisais des collages, etc. Enfin, c'est arrivé, j'avais une main extraordinaire. Elle partait toute seule, je n'avais même pas à m'en occuper. Je lançais une idée et ça partait tout seul. Alors après, sont arrivées les sculptures en tube, qui était un problème très difficile que j'avais déjà abordé à Paris de façon différente. Puis sont arrivées les sculptures en granit. Et actuellement, je travaille sur des chevaux. Je sais pas si on peut me situer dans un courant d'avant-garde. Non, je pense... j'en avais discuté avec... quand j'étais à Paris, il y avait une petite galerie expérimentale. Et il y avait un photographe là. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple. Il y a des grands courants artistiques. Mais ceux qui sont les plus grands maîtres, ils se situent à côté de ce courant-là. Et il me dit oui. Et il se moquait de moi parce que moi, je suis toujours à côté. Il me dit oui, c'est exactement ça. Prenez Henri de Toulouse-Lautrec, vous pouvez pas le cataloguer dans une catégorie. Prenez Van Gogh, vous pouvez pas le mettre. Est-ce qu'il est impressionniste, post-impressionniste? On sait pas. Il est lui-même. Picasso, bon, il y a le cubisme au départ, mais après, on peut plus les situer, ces gens-là. Voilà, je suis en dehors, je suis à la fois dedans et dehors, quoi. Je suis dans un mouvement, si vous voulez, dans un mouvement de recherche en profondeur, pas dans un courant défini, artistique défini.
Donc on en parlait un petit peu en début d'interview. Vous connaissez bien le monde de la radio, les débuts de la radio. Alors parlez-nous un petit peu justement de cette période radio.
C'est pas les débuts de la radio parce que là il faut remonter à... Oui. J'ai voulu me donner une... me mettre en... enfin, prendre de l'importance, quoi. Et sont arrivés le courant des radios libres. Et j'ai senti que, parce que moi, j'ai cherché à droite à gauche, j'avais des salons qui m'intéressaient, auxquels j'ai participé, enfin, où j'ai... Et puis, sont arrivés les radios libres. Et j'ai senti que il y avait la bagarre, les radios libres, que c'était là qu'il fallait se placer, parce que c'était le meilleur moyen de se faire connaître. Et il y a eu la radio libertaire. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai rapidement eu une émission qui s'est très rapidement implantée. En un mois, j'ai implanté mon émission uniquement artistique, art plastique. Et là, ça a été une expérience extraordinaire, parce que ça n'a la radio libre, ça n'a rien à voir avec les radios locales privées. Hein. Ça, c'est totalement différent. On est invité pendant 2 heures, comme ça, à un studio pour parler pendant 2 heures d'art. Ça a été extraordinaire. Ça a été un moment extraordinaire. On avait l'impression qu'on allait faire venir la concierge en bas de l'escalier pour pouvoir. Tout le monde avait la liberté d'expression. Mais à ce moment-là, il y a eu des tas d'expériences, mais extraordinaires, vraiment.
Alors, Servais, une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous apprenez encore? Tout le temps, hein, toujours, tous les jours?
Tous les jours. Vous heurtez toujours un problème. Et puis, s'il n'y a pas de problème, moi, je m'en invente. Mais ce que j'aurais aimé parler, c'est expliquer le pourquoi de l'art contemporain. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que nous, artistes contemporains, on est passé pour des farfelus, etc.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.
Mais on trouve tout à fait normal d'avoir un téléphone portable, et puis etc. On trouve tout à fait normal on va envoyer des gens sur Mars avec des robots sur Mars, etc. On trouve ça. Mais c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont des ingénieurs, qui ont travaillé pour faire évoluer la technologie. Bon, Nicéphore Niépce a inventé la photographie au milieu du 19e siècle. À partir de ce moment-là, on a dit, la peinture, c'est fini, on n'a plus qu'à appuyer, machin, bon, là. Les artistes ont dit, attends, ils se sont posés des questions. Ils se sont posés des questions sur la lumière et la couleur. Et ils sont partis là-dessus, alors on les a traités de fous. Mais ils n'avaient plus à reproduire la réalité, on n'a plus qu'à appuyer. Bon, il faut savoir le faire, bon, c'est une fois qu'on le sait, une fois qu'on sait reproduire. Sur mon site, vous verrez des mails, et les mails sont les choses les plus difficiles à dessiner. Arrivé, le premier violon que j'ai fait, moi, c'est celui de maman, mais il est classique, quoi. Et quand je les déforme, ça me pose des problèmes techniques, parce que, etc., il y a le problème de l'ellipse, que je déforme l'ellipse, je déforme les points de fuite pour arriver au violon. Alors, à ce moment-là, les impressionnistes ont posé des problèmes de la lumière et de la couleur. Et ils se sont fait jeter, parce que on était habitués à la peinture noire, ils ont fait des peintures lumineuse, etc., clair. Et après là-dessus, les choses ont évolué, si vous voulez, on prend sur le plan technologique, si vous voulez. Il y a eu l'industrialisation qui est arrivée, et pour faire des choses industrielles, on a fait des choses géométriques. Et ça a influencé les artistes, les cubistes, enfin Picasso et Braque, se sont intéressés à décomposer, à synthétiser les objets en fonction de données géométriques. Picasso était un grand, grand dessinateur classique, hein, et il maîtrisait parfaitement toute la technologie, toute la technique et la technologie de la peinture. Et là, ils ont commencé à décomposer ce qu'ils voyaient, les portraits ou les paysages. C'est pour ça qu'on appelait le cubisme sur le plan géométrique. Et ils ont été influencés également par l'art nègre, c'est-à-dire l'art africain, qui lui aussi était tourné vers l'art, la décomposition géométrique. Alors donc, on a eu cette évolution-là. Et là-dessus, ils ont tellement synthétisé qu'est arrivé le grand Mondrian, qui est un peintre abstrait géométrique, qui a poussé le système jusqu'à l'abstraction, jusqu'à ce que ce soit abstrait. Et en même temps, en Russie, il y a Kandinsky qui, lui, au lieu de partir sur la géométrie, il est rentré dans son atelier, il a vu un tableau qui n'a pas reconnu. Il s'est aperçu qu'il y avait des formes et des couleurs, il est parti sur les formes et des couleurs. Et on a eu l'abstraction géométrique, lyrique, si vous voulez. Il y avait donc l'abstraction géométrique. Donc on est parti sur l'abstraction. Si, après ça, arrive la guerre de 14, il y a un certain André Breton, poète de son état, qui était médecin. Et il se retrouve médecin au service psychologique de l'armée, parce que 14, ils étaient molin, avec tout ce qu'ils prenaient, etc., les morts, machin. Ils se prenaient les bombes sur le coin de la gueule. Ils voyaient les cadavres, leurs copains, les autres en face, ça pouvait, enfin bon. Et sorti de là, il est parti sur le suralim, je vous le schématise si vous voulez, mais sur l'inconscient, sur le travail inconscient, d'autant plus qu'avant ça, il y avait Charcot à la Salpêtrière qui avait fait le professeur Charcot, médecin, il avait fait des recherches sur l'inconscient. Et il avait eu parmi ses élèves un certain Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Donc, et là, on est parti sur le délire, si vous voulez, sur l'onirique, sur le rêve, etc. Mmh. Et le représentant le plus connu pour le grand public du surréalisme, c'est Salvador Dali. C'est le rêve fait en peinture. Et là, on a les trois courants, si vous voulez. Et s'il y a eu cette évolution de l'art, là, je vous donne des éléments, je pourrais en donner d'autres, hein, comment l'art évoluait, etc., etc. À la radio, c'est difficile, hein, parce qu'il faudrait, être un musée, etc. Ça n'est pas n'importe quoi. C'est pas comme, quand j'ai commencé à ouvrir mon jardin, quand c'est joli, ça m'intéresse pas. Ça semble à rien. Quand c'est joli, ça me fait pas manger. Ça semble à rien, ça m'intéresse pas. La femme derrière, elle a quand même essayé d'arrondir. Mais c'est joli quand même. Je comprends très bien que moi, je suis pas foutu d'élever des vaches. Hein. Mais si vous approchez pas, si vous essayez pas d'apprendre. Vous n'avez pas à critiquer quoi que ce soit.
Servin, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour notre émission Portrait d'Histoire. À très bientôt peut-être.
Eh bien, merci de m'avoir reçu. Ce sera avec plaisir.
Bon, écoutez, merci encore. Au revoir.
Au revoir.
Il est déjà l'heure de se quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Portrait d'Histoire. Merci de votre fidélité.